Des parents épuisés, nerveux et sous pression, à force de vouloir atteindre la perfection, répondre aux injonctions de parentalité parfaite, et bien le burn-out, ce syndrome de stress chronique d'abord associé au monde du travail, a fait son entrée dans la sphère familiale. Épuisement physique et émotionnel, distanciation affective avec les enfants, perte d'épanouissement. Le burn-out atteint de plus en plus de parents dans tous les milieux. C'est le dossier de l'émission dans un instant pour comprendre comment se développe cet épuisement et puis bien sûr comment parvenir à reprendre le dessus. J'attends dès maintenant vos messages, vos témoignages, vos questions pour notre invité. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, un rapport secret sur les risques associés au génie génétique.
Oui, la sûreté biologique est-elle mise en danger par les récentes avancées en matière de génétique ? Que peut-on craindre si les techniques comme CRISPR tombaient entre de mauvaises mains ? On en discute avec celui qui a coordonné ce rapport, le professeur Antoine Danchin.
Et puis comme tous les mercredis, nous retrouverons la science en grand format avec nos confrères de France 5. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le burn-out parental, dossier donc dans un instant de l'émission avec mon invité Isabelle Roskam. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeure de psychologie, directrice de recherche et mère de 5 enfants. On peut et quand même le préciser. Vous avez donc une expérience précieuse pour aider les parents épuisés. Ils sont nombreux, ces parents victimes de burn-out aujourd'hui.
Alors on estime à peu près la prévalence à 5% de parents qui sont en burn-out et 8% en plus qui sont à risque.
Ouais, c'est récent ce phénomène ou pas ?
Alors c'est récent. Moi je pense que c'est un trouble du 21e siècle. On aura sûrement l'occasion de revenir sur cette question.
Je vous le confirme. On se retrouve dans un instant.
Merci.
Les messages, les témoignages sur le site de l'émission. Faut-il craindre le bioterrorisme génétique ? Le ministère de la Défense et le Conseil national consultatif de biosécurité se sont penchés sur le cas épineux de la technique d'édition de l'ADN CRISPR-Cas9 dans un rapport dont les conclusions viennent d'être rendues publiques et la réponse faite par les scientifiques montre que les préoccupations vont bien au-delà du seul cas CRISPR. Bonjour Antoine Danchin.
Bonjour,
vous êtes professeur à la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de l'Académie des sciences, et vous avez coordonné donc le groupe de travail qui a rédigé ce rapport. Pourquoi d'abord rendre public seulement les conclusions de ce rapport ? Le corps de votre réflexion est trop sensible pour être communiqué ?
Non, mais nous pensons en général que faire trop de publicité sur ce genre de problème n'est pas bienvenu. Si vous voulez, l'idée est assez simple. Nous avons fait, pour commencer, une analyse de la typologie des acteurs malveillants possibles, ce que les Américains appellent profilage, et on se rend compte que l'aspect publicitaire, le fait de se faire connaître, de se faire voir, etc., est mis très systématiquement en avant. Donc, nous souhaitons mettre moins en avant les choses.
Donc, ça veut dire en quelque sorte que vous êtes mis dans la peau de bioterroristes et vous avez imaginé ce que vous pourriez faire avec les techniques actuelles.
Ça revient un peu à ça, oui.
Est-ce que vous pouvez...
mais évidemment, vous dites bioterroristes, non. Quand je dis nous avons analysé les acteurs possibles, ça va depuis l'État voyou, on peut penser à la Corée du Nord, jusqu'à simplement des gens qui localement voudraient se venger de quelqu'un qui ne leur plaît pas, si vous voulez. Donc il y a un continuum entre des États organisés et des individus ou des groupes d'individus.
Est-ce que vous pouvez quand même nous donner des exemples de menaces que vous avez imaginées ?
Les menaces, alors, il y a deux choses différentes. Un certain nombre de menaces ont été identifiées par les services en général. On s'est aperçu, par exemple, que la secte Daesh a fait des recherches pour savoir si elle pourrait utiliser des armes biologiques. Elle a utilisé des armes chimiques. Donc, l'information est là directement. Donc, nous n'avons pas été au-delà de ce qui est déjà connu.
Les techniques de modification de l'ADN connues aujourd'hui permettent de créer des virus et des bactéries plus dangereuses que celles qu'on trouve naturellement ?
Non, alors la question n'est pas du tout celle-là. Si vous voulez, j'ai l'impression, quand j'entends une question de ce genre, qu'effectivement nous sommes dans un pays où l'artisanat a complètement disparu. C'est-à-dire que si on va chez un ébéniste, on se rend compte qu'il y a une énorme différence entre le fait pour un individu de faire un objet de très haute qualité et le personnage qui viendrait dans l'ébénisterie et verrait tous les outils et se demanderait comment faire pour réaliser quelque chose qui soit inventif, si vous voulez. Donc l'activité inventive, ça c'est quelque chose de tout à fait à part.
Alors Antoine Dauchin, justement, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui inquiète réellement dans ce domaine du génie génétique aujourd'hui? Alors on parlait de CRISPR-Cas9, qui est une technique comme une autre, on parlait de bricolage de l'ADN, mais qu'est-ce qui est possible aujourd'hui?
Alors justement, ce que nous avons repéré, c'est que, en fait, c'est la connaissance des génomes qui apporte le danger principal. Le fait de connaître le texte génétique des organismes pathogènes, en particulier de virus, en parallèle avec le moyen de les construire, simplement de les construire, est particulièrement dangereux. Et donc, on a été mis sur la piste par, tout simplement, j'allais dire à nouveau, la publicité à propos d'une technique qui rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles quand il s'agit de reconstruire ou éventuellement de modifier quelque chose. Mmh. Mais je vous signale d'ailleurs que la technique CRISPR-Cas9 est surtout utilisée pour détruire des gènes, et en particulier détruire simultanément, plutôt qu'en construire. Donc ça, je pense qu'il y a une assez grande confusion dans les objectifs des techniques et cette idée un peu monstre de Frankenstein, où on va fabriquer quelque chose qui soit plus efficace que la nature. En fait, ce qui nous a paru tout à fait clair, c'est que la nature elle-même est en général infiniment plus dangereuse que tout ce qui est artificiel.
Du coup, vous voulez dire que le dangereux, ce serait de recréer des maladies qui seraient éteintes plutôt que d'en fabriquer des nouvelles?
Exactement. Et il y a un exemple très simple, c'est celui de la variole. La variole, donc, a été éradiquée à la fin au milieu des années 70. On a arrêté plus exactement la vaccination au milieu des années 70 parce qu'on l'avait éradiquée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun réservoir sur Terre. Donc on pouvait imaginer détruire les stocks, et puis il n'y aurait plus rien, la maladie n'existerait plus. Mais maintenant que la séquence du génome a été faite, la séquence c'est un texte, ce texte est propagé facilement par Internet, sans risque de contagion. En revanche, si à partir du texte, on sait reconstruire le génome du virus, alors on a fait réapparaître la variole. Ouais. Et ça, c'est réellement, réellement dangereux. Il y a une souche particulière, par exemple, qui va jusqu'à 75% de mortalité.
Ouais. Qui pourrait faire ça, justement, aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être d'abord un bon informaticien ou avant tout un bon biologiste?
Alors, ce que je vois là, c'est ce que je redis à propos de l'artisanat. On se rend compte immédiatement qu'il ne suffit pas de passer par Internet et d'extraire l'information pour pouvoir réussir à faire la construction en question. D'autre part, par exemple, pour la variole, la construction est évidemment très dangereuse pour celui qui l'a fait, donc ça pourrait être dissuasif, si vous voulez. Donc n'importe qui ne peut pas le faire. En revanche, ça nous a permis, et c'est une des recommandations principales que nous allons faire, c'est de faire en sorte qu'on ait une sorte de charte de déontologie ou de, disons, d'exploration des actes malveillants possibles pour tous les biologistes qui entrent dans un laboratoire. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience que, ceux qu'ils font peuvent éventuellement avoir des usages malveillants. Je vous signale d'ailleurs que la plupart des journaux de microbiologie posent, au moment où le relecteur juge sa valeur, posent la question de savoir est-ce que ce travail peut avoir ce que les Américains appellent un usage dual, c'est-à-dire un usage malveillant. Mmh. Donc ça, la prise de conscience est faite systématiquement maintenant, au moins à l'échelle des journaux.
Est-ce que, selon vous, les scientifiques qui maîtrisent ces techniques doivent être encadrés, que ce soit de la protection ou de la surveillance?
Alors, je suppose que non. Ces techniques sont assez banales, tellement répandues qu'on ne pourrait pas imaginer faire une surveillance générale. Non, l'idée, c'est plutôt qu'il y ait une sorte d'autocontrôle, de prise de conscience.
Je voudrais revenir un tout petit peu sur les nouveaux outils d'édition du génome. Oui. Vous ne semblez pas forcément d'accord avec les experts américains qui, eux, les qualifient d'armes de destruction massive?
C'est-à-dire que quand on regarde de près qu'est-ce que serait cette arme de destruction massive, en réalité, d'une part, lorsqu'il s'agit des organismes pathogènes, en fait, cette technique n'est pas très supérieure à ce qu'on connaît déjà. En revanche, dans un cas très particulier, qui est celui qu'on peut appeler le forçage génétique, c'est-à-dire la capacité de propager à une population entière un gène d'un type particulier, là, effectivement, il y a un risque. Mais c'est quelque chose de tout à fait particulier, dont on imagine finalement assez mal sauf un rôle assez suicidaire, assez mal suicidaire, mais j'allais dire général, assez mal un usage. Ça pourrait être plutôt un usage de type, par exemple, agro-terrorisme, chose de ce genre. Mais ça paraît assez loin et ça n'est malgré tout pas extrêmement facile à mettre en œuvre.
Antoine Dechin, ce rapport, il est destiné donc au ministère de la Défense.
Oui, et au ministère de la Recherche, oui.
Bien sûr. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir informer les scientifiques et, voilà, et le citoyen aussi sur les risques.
Alors, le citoyen, il est informé en ce moment par les questions que vous me posez. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus dans le détail.
Ah, vous pensez...
D'autant, par exemple, si je vous pose la question, qu'est-ce que Chris perd ? Le citoyen, que voulez-vous qu'il en fasse ?
Oui, mais c'est bon de lui expliquer quand même, non ? Qu'il soit un petit peu au courant de ce qui se passe dans les labos.
Si c'est bon de lui expliquer, je le crois, ça veut dire qu'il faut effectivement procéder à une éducation essentiellement au lycée, de haut niveau en biologie.
Oui, mais le citoyen est capable de comprendre et pédagogie est importante dans ce domaine.
Je suis tout à fait d'accord.
Merci beaucoup.
Mais c'est plutôt adressé, dans ce cas-là, aux enseignants.
Merci en tout cas pour vos explications, Antoine Dechin, avec donc ce rapport du Conseil national consultatif de biosécurité. Merci Axel.
Merci.
À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, des scientifiques ont fait un lien entre la thermodynamique et les capacités de notre cerveau. C'est la découverte réalisée par une équipe de physiciens de l'université de Stuttgart, publiée dans le Physical Review Letters. En corrélant l'énergie de notre réseau neuronal à notre capacité d'apprentissage, les chercheurs ont fait une vraie avancée dans l'étude de ces réseaux qui offre désormais une vision inédite et très générale de son fonctionnement. Découvrir des maladies en analysant la voix, voici l'objectif que s'est fixé la start-up américaine Canary Speech qui affirme avoir développé un algorithme permettant cet exploit. Pour le vérifier, une importante compagnie d'assurance nord-américaine qui tient à rester anonyme s'apprêterait à lui transmettre plusieurs centaines de millions d'appels téléphoniques recueillis au cours des 15 dernières années. Cette avancée pourrait accélérer les diagnostics, mais certains craignent que les compagnies d'assurance s'en servent pour refuser de prendre en charge certains patients. De tels abus existaient avant une loi de l'administration Obama, loi que la nouvelle administration Trump pourrait supprimer. Et puis bientôt un gel contraceptif pour hommes, selon une étude financée par la fondation Parsemus et réalisée sur des singes. Des chercheurs auraient réussi à mettre au point le vasalgel, présenté comme une alternative réversible à la vasectomie. Lors d'une opération chirurgicale, les primates se sont vus injecter ce gel dans le pénis, bloquant la cavité par laquelle transite le sperme, empêchant ainsi l'éjaculation. L'avantage de cette technique est sa réversibilité. Le gel est dissoluble par ultrason et n'affecte pas la fertilité de la semence. Des essais sur l'homme devraient bientôt commencer. Et le burn-out parental, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
I couldn't wait to dance. Un jour, étant vraiment épuisée, je suis sortie avec les enfants. Et là, j'ai fait un malaise dans la rue. J'étais toute seule avec les loulous. J'ai été 8 mois sans oser sortir seule avec les enfants, de peur de faire un malaise dans la rue seule avec eux.
Antoine, est-ce que tu veux que je la coupe, la crêpe ?
Tout a commencé il y a 2 ans, après la naissance d'Antoine. Lucille prend un congé parental pour s'occuper de ses enfants. Mais très vite, la spirale infernale commence, Jules fait des colères et Antoine dort très peu.
J'étais arrivée à un point où je devais faire les 100 pas dans la maison pour le calmer, sans arrêt. Donc je faisais des allers-retours dans le salon, tout le temps, jusqu'à ce que la nuit, il veuille aussi être sur moi. Donc je dormais semi-assise, avec son ventre contre mon ventre.
Antoine souffre en fait d'allergie alimentaire. Voilà ce qui l'empêche de dormir. Alors qu'elle se croyait incapable de s'occuper de ses enfants, Lucille est tout simplement épuisée.
Voilà donc extrait d'un documentaire diffusé en 2014 sur France 3 et le burn-out parental, dossier de l'émission cet après-midi. C'est également un livre qui sort chez Odile Jacob. Vous signez cet ouvrage, Isabelle Roskman, et avec Moira Mikola-Jack, qui est également professeure de psychologie. Vous travaillez à l'Université de Louvain, vous êtes directrice de recherche et vous venez de terminer 6 études de terrain sur ce thème. Et je précisais tout à l'heure que vous êtes la mère de 5 enfants. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Alors c'est vrai qu'on connaît bien, Isabelle Roskam, cet anglicisme, burn-out pour le monde du travail, un peu moins pour la sphère familiale, et pourtant il est employé aujourd'hui.
Oui, alors c'est un peu nouveau comme phénomène, et on peut certainement faire un parallèle entre l'apparition du mot burn-out dans le domaine professionnel dans les années 70, à l'apparition de ce même mot dans le domaine familial aujourd'hui. Mm-hmm. Alors si on s'en souvient, dans les années 70, le burn-out, on s'est mis à en parler parce qu'on était dans le contexte d'une crise socio-économique qui a amené en fait les travailleurs à subir plus de pression, on leur demandait de faire beaucoup de choses avec beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de temps. Et donc, ça a amené en fait ce syndrome d'épuisement. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec une époque où finalement, on demande aux parents de faire beaucoup de choses avec de moins en moins de temps et de disponibilité.
Oui, ça revient déjà dans les messages. Sylvie nous dit, il faudrait que les parents aient le courage de ne pas se laisser influencer par la société qui exige de superwoman ou de superman. On ne peut pas être à la fois super papa, super maman, super gendre, super collègue, super voisin. Acceptons d'avoir des forces, mais aussi des faiblesses. Bon, le message paraît simple, mais il est aussi au cœur de ce que vous dites dans cet ouvrage.
C'est tout à fait vrai parce que je pense que c'est une maladie qui est liée en partie en tout cas à la pression qu'on ressent sur la parentalité parce qu'aucune époque dans l'histoire, à part celle qu'on vit aujourd'hui, ne s'est autant intéressée en fait aux parents et à ce qu'ils ont à faire pour que leur progéniture soit épanouie, en bonne santé, etc. Et on reçoit des injonctions de toutes parts. Alors, c'est les campagnes sur l'allaitement, ce sont des campagnes pour ne pas mettre vos enfants devant des écrans avant 6 ans, ce sont des campagnes sur vos responsabilités à l'égard de l'école, ce sont des campagnes pour leur donner 5 fruits et légumes par jour. Enfin bref, j'en passe. Il y en a à tous les coins de rue. On reçoit ces injonctions. Et je pense que les gens qui tombent en burn-out sont des gens qui ont envie... Justement, c'est des gens très investis, qui ont une phase, comme on dit, de burn-in, qui sont très, très, qui ont une grande volonté, en fait, d'être des super papas et des super mamans, et qui, du coup, prennent toutes ces injonctions au pied de la lettre et veulent tout faire bien. Ouais. Et à un moment donné, c'est juste pas possible, quoi.
Ouais. Et c'est là qu'est le danger, justement.
C'est là qu'est le danger. Donc, faut accepter de laisser des miettes sur la table, comme on dit, de pas suivre à la lettre toutes ces injonctions. On peut, par exemple, donner l'exemple que, bien sûr, les écrans, alors c'est un point de repère, bien sûr, que mettre ses enfants devant des écrans toute la journée, c'est pas une bonne idée. Mais en même temps, si on a besoin de souffler et que c'est le seul endroit où il s'apaise pendant un quart d'heure, c'est pas de la maltraitance non plus, quoi, soyons clairs.
Alors, on entendait le témoignage de cette mère, là, tout à l'heure. Quand on parle d'épuisement, on parle d'effondrement. Dans son cas, il est psychique et physique. Il y a un soir, elle s'effondre, littéralement.
Oui, ça peut aller jusque-là, quand on prend pas soin des symptômes qui émergent. Et je pense que du coup, le fait d'en parler, c'est très bien, parce que ça va probablement éviter à plein de gens de se laisser aller jusque-là. Mais bien sûr, cet épuisement qui est d'abord émotionnel, il peut évidemment être lié à un épuisement qui est physique et qui fait qu'on physiquement, on s'écroule, on ne peut plus assumer son rôle de parent. Et alors, il y avait un élément, je trouve, très important dans ce témoignage qui a été donné, dont on reparlera sûrement, c'est elle décrit en fait un phénomène d'accumulation de problèmes. Et ça, c'est vraiment le cœur du burn-out.
Il faut les repérer le plus tôt possible, parce qu'on voit que dans le domaine du burn-out parental par rapport au burn-out au travail, les choses sont moins réversibles.
C'est ça, en fait, il y a moins de portes de sortie, c'est plus compliqué.
Alors, vous avez fait ces enquêtes, expliquez-nous un petit peu dans quel contexte. Le thème, c'était être parent au 21e siècle, ce n'était pas le burn-out au départ.
Parce que si vous intitulez ça, le burn-out, alors vous
allez... Il y a un biais de fait.
Exactement, voilà. Donc alors, vous allez avoir que des gens épuisés, et puis vous allez voir que la prévalence, elle est de 50%, ce qui est complètement ridicule. particules. Donc l'idée, c'était d'avoir des gens qui s'intéressent à la parentalité, au fait qu'ils participent. Mais le but, c'était bien, en fait, d'étudier le burn-out. Et donc, on a eu à peu près 3000 sujets en tout qui ont participé à nos études.
Sur la Belgique ou...
Belgique, France et Suisse.
Ouais.
Et donc, ces études, bah, elles portaient alors d'abord sur est-ce que le burn-out parental, c'est bien quelque chose qui est différent du burn-out professionnel? Ou bien est-ce que finalement, quand quelqu'un a perdu ses ressources, en fait, ça, il y a une espèce de contamination à différents secteurs de la vie. Donc, on voulait d'abord vérifier que c'était bien quelque chose en soi, ce qui est le cas. On voulait vérifier que c'était pas de la dépression. Ouais. C'est le cas. La dépression, c'est un syndrome qui est beaucoup plus transversal. En fait, vous êtes à bout dans tous les secteurs de votre vie. Il n'y a plus rien qui marche. Tandis que le burn-out parental, c'est centré sur la vie familiale. Et ensuite, on voulait aussi étudier quelles étaient les causes, en fait, du burn-out. Quels étaient les profils de parents à risque, par exemple. Donc ça, on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir.
Alors justement, les parents, on parle vraiment du père et de la mère de la même manière dans le cas du burn-out, ou les mères sont plus concernées que les pères?
Alors, les études de prévalence qu'on a fait, elles montrent qu'il y a autant de pères que de mères.
Ouais. Donc, ça vous a surpris, ça?
Ah, complètement. Nous, on pensait vraiment que c'était plutôt quelque chose qui était lié aux mamans, mais c'est faux. Et maintenant, on a des consultations et je remarque qu'en fait, il y a autant de papas qui viennent à la consultation que de mamans.
Alors, les parents viennent ensemble en général ou ça peut être vraiment de façon séparée?
Alors, il y a les deux profils. Moi, je dirais, il y a des familles où les parents viennent en cachette, ils veulent pas même que le conjoint apprenne parce que ça a un côté un peu honteux, en fait, d'en avoir ras-le-bol de ses enfants, pour le dire platement, et de venir dire, en fait, si je pouvais faire marche arrière, peut-être que j'en aurais jamais. Ça a quelque chose de très honteux, parce que la parentalité est entourée dans nos cultures d'un voile tellement
sacrée.
Positif, quoi. Enfin, voilà, vous allez jamais recevoir à la naissance d'un de vos enfants une carte de sincère condoléance. Tout le monde va vous féliciter pour cet heureux événement, j'ai envie de dire.
Donc, c'est vrai.
Se plaindre d'être parent, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas entendable par la société. Donc, les gens viennent et parfois ils nous disent, je n'ai pas du tout envie que les gens de ma famille soient au courant. Parce qu'il y a une forme de honte et de culpabilité. Et puis après, on a des profils de gens qui consultent, où c'est le conjoint qui amène la personne en burn-out, parce qu'il est vraiment inquiet des conséquences que ça pourrait avoir, on en parlera sans doute aussi, mais sur les enfants et sur le conjoint lui-même.
Ouais. En consultation, vous voyez toutes les couches de la société?
Alors ça, c'est très particulier, mais on voit surtout les couches très éduquées. Alors ça aussi, on s'était dit en fait que probablement le fait de manquer de moyens allait être probablement un indicateur du burn-out, parce que effectivement, si vous avez un peu d'argent, ben, vous pouvez plus facilement vous faire un cinéma pour souffler, parce que vous savez vous payer une babysitter par exemple, ou mettre vos enfants en stage si vous avez besoin de vous prendre une semaine un peu plus cool. En fait, c'est tout le contraire qui se passe, c'est plutôt les milieux assez éduqués, et en y réfléchissant bien, c'est en fait c'est ces parents-là qui se posent le plus de questions pour être de bons parents. En fait, c'est eux qui lisent plein de bouquins, qui font le plus attention aux injonctions sociales, qui sont le plus attentifs à la nourriture de leurs enfants, etc. Et finalement, c'est eux qui encaissent le plus ces injonctions sociales, qui sont le plus sensibles et qui se mettent le plus de pression. Parce que c'est vraiment une pression qu'on se met à soi-même, quoi, de vouloir coller à l'idéal parental.
Ouais, donc ça veut dire que ce sont des parents qui se posent au fond trop de questions?
Ouais, on pourrait dire ça comme ça, oui.
Comme peut-être Florence Foresti, écoutez-la.
Bref, je me suis dit que j'étais large vu qu'il me restait 4 minutes parce que j'avance toujours mon réveil de 4 minutes pour être large. En vrai, il était 7h26. J'allais pour m'endormir, mais ma coloc a fait irruption dans ma chambre. Elle aussi, elle avance toujours de 4 minutes. J'ai voulu me faire couler un café, mais...
Maman,
mes cocopops! Voilà, voilà! Ça a pas marché.
C'est pas des cocopops!
Je les ai coloriés en marron.
Merci!
Ça a marché. J'ai voulu me faire couler un café, mais...
Maman, pipi!
Après, j'ai brossé mes dents et ma fille. Ça lui a fait mal.
Ah, ça fait mal!
Ah bah oui, mais c'est important d'être bien coiffée.
Après, on a couru pour pas être en retard à l'école. On n'était pas en retard.
Oui, oui. Oh, bah oui.
On était samedi.
J'ai cru.
Bref, j'étais vraiment super large.
Voilà un exemple de parents débordés, hein. Vous êtes d'accord avec ça?
Complètement. Alors, c'est intéressant que vous ayez choisi Florence Foresti, parce que ce côté sombre de la parentalité qu'on ne dit pas...
Elle le met en scène.
Elle le met, et depuis le début du XXIe siècle, en fait, on a de temps en temps un film... un sketch qui vient justement mettre le doigt là-dessus. On peut donner comme exemple Papa ou Maman. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être ce film avec Laurent Baffy, où ce sont en fait un couple qui se déchire, qui se sépare, et ils se battent pour ne pas avoir la garde de leurs enfants. Aucun des deux n'en veut. Et en fait, ça fait rigoler, parce que je pense que tout le monde comprend en fait ce côté cynique de la parentalité, parce que la parentalité, ce n'est pas que du plaisir.
C'est ça. Et beaucoup se reconnaissent dans ce qui n'est pas bon d'être dit. Hein.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est drôle, en fait.
Absolument.
C'est pour ça que l'humour marche autour de cette
question. Ça libère, c'est très libérateur. Blandine nous dit comment commencer par expliquer ce burn-out par l'envie de trop bien faire des parents. Est-ce que ça n'est pas leur jeter la pierre en occultant des contextes professionnels et sociaux qui se dégradent aujourd'hui pour une majorité de personnes?
Alors elle a raison, parce que cette pression, cette envie de bien faire, c'est pas le seul facteur. Hein. On va sûrement revenir sur ces questions de mécanismes qui amènent au burn-out, mais ça en fait partie. J'ai envie de dire que c'est une forme de socle commun. Les gens qui sont pas trop tracassés de la perfection, ils ont vraiment beaucoup moins de chances de tomber en burn-out. Mais c'est pas parce qu'on veut faire bien qu'on tombe en burn-out non plus. Donc il faut pas confondre les deux, mais c'est un facteur qui va vous prédisposer en fait un peu à faire ça, parce que si on ne se met pas cette pression, mais en fait, il n'y a pas de problème. Je veux dire, si on ne fait pas les choses bien, on ne va pas s'en vouloir non plus, quoi.
Isabelle Roskam, c'est le dossier de cet après-midi avec ce livre, Le Burnout Parental, chez Audi Jacob.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle. Je me retiens. C'est physique. Comment choper le truc? Je te vois, je panique. J'ai des frissons, je dégouline. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup. Je tombe, je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique.
Panique Junior à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Isabelle Roskam, le burn-out parental, l'éviter sans sortir, donc c'est chez Odile Jacob, avec beaucoup de messages, de témoignages de parents en Belgique aussi. Hein, vous avez fait beaucoup de rencontres avec des parents, visiblement un sujet très concernant. L'importance d'en parler aussi, vous le dites, c'est que les risques de maltraitance sont importants pour des parents qui sont en burn-out.
Oui, parce que le burn-out, il repose donc sur cette notion d'épuisement, mais aussi sur une notion dite des distanciations émotionnelles. Ça veut dire qu'en fait, on en vient aussi pour se protéger en fait à faire juste ce qu'il faut en fait pour ses enfants, mais pas plus quoi. Donc on est moins concerné par comment ils vont, par ce qu'ils ont fait de leur journée. On prend moins de plaisir à être auprès d'eux finalement et à s'impliquer. Et ça en vient chez certaines personnes à tel point qu'il y a un rejet presque et une forme d'irritabilité qui est tellement importante que dès que l'enfant fait un petit quelque chose, les gens disent on sort facilement de nos gonds. Et avec des bébés, bon, il y a des risques de secouement. Voilà, c'est vraiment très très impressionnant. Et certains, déclarent qu'ils ont eu des envies de meurtre. Hein.
Et pour eux-mêmes d'ailleurs, avec des risques de suicide aussi,
tout
vous
à
le
fait.
Dites.
Exactement, parce que contrairement au burn-out professionnel où il existe des portes de sortie, les gens peuvent facilement à notre époque se réorienter, changer de boulot. En fait, dans le burn-out parental, il n'y a pas de porte de sortie. Hein. On ne peut pas se défaire de cette situation. Et donc, 9 personnes sur 10 qui viennent consulter disent qu'ils ont déjà pensé alors soit à disparaître à l'autre bout de la terre sans laisser d'adresse.
Ce qui n'est pas bon signe.
Soit ont déjà pensé au suicide, voire même sont déjà passés à l'acte. Et c'est une des raisons pour lesquelles les conjoints parfois nous les amènent, parce qu'il y a une vraie trouille en fait de ce que l'autre serait capable de faire aux enfants et à lui-même.
Alors justement, il y a beaucoup de questions des auditeurs qui font ce rapport entre le burn-out professionnel et le burn-out parental. Alexandre à Bruxelles justement nous dit ce burn-out ne doit pas être considéré indépendamment du contexte professionnel. Si on est pressuré au boulot, la famille devient la variable d'ajustement. Et il y a beaucoup de témoignages en ce sens.
Donc je vous ai dit tantôt, on a vérifié. Alors, il y a une forme d'overlap, c'est vrai, il y a des gens qui sont en burn-out des deux côtés. Et cela, peut-être que c'est déjà une forme de dépression parce qu'il y a une forme de contamination. Mais il y a aussi plein de gens qui sont en burn-out professionnel et pour qui la famille est vraiment le havre de paix. C'est là qu'ils viennent se poser et qu'ils retrouvent leurs ressources. L'inverse est vrai aussi. Quand on est épuisé sur le plan familial, les gens restent plus tard au boulot. Parce qu'ils laissent leurs enfants plus tard à la garderie parce que finalement, c'est au boulot qu'ils respirent. Exactement. Et donc, il ne faut pas penser que les deux sont forcément liés. Et une idée reçue aussi, et qu'on a démentie dans l'étude, c'est qu'on s'était dit finalement, probablement que les gens en burn-out, c'est ceux qui font beaucoup d'heures de travail aussi. Parce que finalement, le stress généré par le travail va aussi contaminer leur vie familiale en termes de conciliation difficile. En fait, c'est l'inverse. Les femmes les plus à risque sont celles qui sont mères au foyer et qui ont un temps partiel. Parce que probablement que dans ces situations-là, on est sans cesse confronté en fait au stress familial et on n'a pas de bouée de secours par ailleurs. D'autant que, alors je ne sais pas si c'est pareil en France, mais en Belgique en tout cas, celles qui sont à temps partiel, du coup ont un boulot qui est moins intéressant. Et comme elles sont à temps partiel, on s'attend à ce qu'elles assurent tout vis-à-vis de l'enfant aussi. Et donc pas le laisser à la garderie, être là pour les devoirs, enfin tout assurer puisqu'en fait elles ont du temps pour s'occuper des enfants.
Anna nous écrit, je comprends très bien ce problème, dit-elle, parce que je trouve qu'on est très seul face à nos enfants. Personnellement, je ne peux que très rarement laisser mes enfants. Tout le monde a autre chose à faire que de les garder pour que j'aille me faire un ciné, souffler un peu. Moi, qu'on laissait tout le temps chez les grands-parents, j'ai du mal à comprendre que mes parents ne soient pas plus disponibles eux-mêmes. Sans famille et pas de sous pour une babysitter, on se retrouve en circuit fermé.
Oui, c'est vrai. Alors c'est intéressant comme remarque. Je pense qu'il y a plein de choses dans son témoignage. Le premier, c'est sans doute que on vit aussi dans une société, on disait c'est un mal du siècle, mais c'est aussi un mal de société qui est lié au fait que les familles ne sont plus sur un mode collectiviste intergénérationnel,
c'est ça,
qui est en circuit plus fermé. Et puis le burn-out, c'est quelque chose qui isole. On a du mal à le dire, à l'admettre, et donc à en parler autour de soi, demander de l'aide.
Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure des injonctions faites pour être le meilleur parent possible. Et vous dites à quel point, d'ailleurs, les psys aussi ont une responsabilité.
Complètement, parce qu'on a fait beaucoup de progrès, deuxième moitié du XXe siècle, sur la compréhension du rôle que jouent les parents dans l'épanouissement, la santé psychique de l'enfant. Et du coup, ça nous a autorisé, je pense, à laisser entendre qu'il y avait une bonne façon d'être parent. Et donc, il y avait ce qu'on appelle une parentalité positive et forcément, du coup, une parentalité qui l'est moins. Et ça a généré plein d'associations qui se sont mises à faire des conférences sur, finalement, comment être une bonne mère, un bon père, qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant fait des colères, comment est-ce qu'on gère des enfants sur des réseaux sociaux, comment est-ce que... Enfin, voilà. Et donc, finalement, toute une profession qui s'est mise à donner des leçons aux parents, comme s'il existait des sortes de recettes universelles, et si vous ne les employez pas, c'est normal que ça ne marche pas avec vos enfants.
Sauf que là, on voit les effets catastrophiques de ce type de discours.
Exactement.
Hein, qui sont mal interprétés, évidemment.
Tout à fait. Ça donne une espèce de normativité et aussi de pression intense, parce que la recette n'est pas facile, en fait, à appliquer, et puis elle ne marche pas avec tous les enfants.
Alors, écoutons ensemble, Isabelle Roxham, ce témoignage à l'occasion d'un TEDx à La Réunion. C'est celui d'une maman qui s'appelle Laetitia et qui, justement, s'adressait au public sur scène pour parler de son expérience.
Le jour où je suis rentrée de maternité avec mon deuxième enfant, mon grand, alors âgé de 2 ans, s'est levé 22 fois. Vous avez bien entendu, 22 fois de son lit. D'emblée, il nous a donné le ton. Franchement, j'étais loin, mais vraiment loin d'imaginer ce que j'allais vivre durant ces quelques mois. Une lente, mais certaine descente aux enfers. Un soir, après avoir tenté 1000 fois de mettre mon grand au lit, après une journée somme toute banale mais tellement difficile, mes deux enfants dorment enfin. Il est plus de 22 heures, je ferme la porte de leur chambre et là je m'écroule littéralement. Mes jambes ne tiennent plus. Je glisse le long d'une porte et je craque. Je pleure à n'en plus finir. Je n'en peux plus de cette vie-là et je n'en veux plus surtout.
Un témoignage, une réaction en tout cas sur ces mots de cette mère.
Alors on entend bien quand elle dit « je n'en veux plus », alors c'est quelque chose qui est difficile à admettre, de dire « je ne veux plus de mes enfants », alors qu'on vit à une époque où finalement avoir des enfants, ça fait partie d'une décision consciente. Hein. On peut décider de ne pas en avoir, et quand on fait le choix d'en avoir, et parfois on se bat pour en avoir avec des techniques médicalement assistées, et donc en arriver à pouvoir dire « je ne veux plus de ma vie avec mes enfants », c'est quelque chose qui est très très difficile à dire et à faire entendre par l'entourage.
Sauf que, est-ce que c'est pas justement le moment où il se passe quelque chose et on peut taper le sol avec son talon et remonter un peu la surface pour
alors si on arrive à en parler,
changer la situation.
Exactement. Je pense que si on arrive à communiquer ce besoin-là, même d'une façon parfois qui est terrible, de dire je ne peux plus, je ne veux plus de cette vie-là, c'est sans doute une façon d'activer aussi le réseau autour de soi. Parce que du réseau, il y en a. Il y a d'abord le conjoint, souvent, mais aussi probablement des gens autour de soi qui seraient prêts à donner un coup de main. Sauf que si on ne demande pas, si on ne communique pas ses besoins, les autres ne peuvent pas savoir que vous êtes à ce point épuisé par la situation, parce qu'on a tous quand même tendance à faire bonne figure, en fait.
Cette maman qui nous écrit, Karima, elle a 3 enfants, 11, 6 et 4 ans. J'ai toujours voulu concilier vie professionnelle et vie de famille, mais vouloir tout gérer m'épuise. Vouloir soulager son conjoint qui souffre au travail, vouloir une vie épanouissante pour ses enfants, vouloir une maison nickel, vouloir être chef en cuisine, vouloir être top au boulot. On finit par se perdre, je suis fatiguée et dormir n'y change rien. Cette maman est en souffrance, visiblement.
Oui, tout à fait. Et cette souffrance, elle ne se gère pas qu'avec des heures de sommeil, puisqu'en fait, c'est aussi un épuisement psychique, émotionnel, pour lequel il ne suffit pas de dormir. Et donc là, il faut déconstruire le processus du burn-out. Et elle dit très bien quel est le processus du burn-out. C'est le fait d'avoir laissé s'accumuler trop de stress dans des domaines différents de la vie, et de vouloir tout assurer sur tous les fronts et ne pas être... d'accord, par exemple, de laisser une fenêtre sale ou d'accepter que sa maison soit pas aussi bien rangée que ce qu'on voudrait et de vouloir être au top sur tous les fronts.
Ouais, donc il y a ce stress chronique qui doit être l'un des premiers indicateurs.
Oui, je pense que le burn-out, c'est clairement une maladie de stress. Mm-hmm. Et ce qu'on doit retenir, c'est que chaque burn-out a son histoire. En fait, pourquoi est-ce qu'on tombe en burn-out? Parce qu'on a des stresseurs qui s'accumulent dans notre vie. Alors, les stresseurs qui vont s'accumuler dans ma vie ou ceux qui vont s'accumuler dans la vie de ces mamans là, qui témoignent, sont pas les mêmes. Ça peut être lié à un habitat trop petit, un papa qui n'est pas souvent là, un stress qu'on ramène du travail, et un enfant qui pleure, qui se réveille beaucoup la nuit, un enfant qui fait des colères. Et tous ces stresseurs viennent s'accumuler et à un moment donné, la coupe est trop pleine et on ne peut plus y faire face avec les ressources dont on dispose. Et c'est ce déséquilibre qui va vous amener en burn-out. Mais les stresseurs qu'on a dans son assiette, comme on dit, ils sont propres à chacun. C'est vraiment l'histoire de chaque burn-out. Quoi.
D'où l'importance de les identifier.
Ouais.
Et là, pour le coup, agir pour essayer de transformer les choses.
Exactement. Alors agir, ça veut dire parfois se délester de certains stresseurs, accepter, comme je disais tantôt, de laisser des miettes et donc se dire, ok, je vais enlever de mon plateau, de ma balance de stress. Je vais enlever, par exemple, le stress que je me mets sur le nettoyage de la maison en me disant, tant pis, fais un peu plus sale. Mais c'est aussi parfois rajouter des ressources, comme on disait tantôt, aller chercher du support là où il est, dans le réseau, auprès du conjoint, par exemple.
Brigitte nous dit évidemment qu'il y a moins de burn-out parental dans les classes moins aisées. Eux, ils n'ont pas les moyens d'aller chez le psy et se réfugient dans autre chose, l'alcool, la maltraitance parfois. Mais ça, c'est toutes les couches sociales, vous l'avez vu.
Oui, tout à fait. Et je pense que les addictions, c'est aussi une conséquence très fréquente du burn-out. Par des simples exemples, certains parents nous disent « mais moi je fume sur la terrasse, mais depuis que je suis en burn-out, je fume 4 fois plus parce que je sors tout le temps sur la terrasse, parce que c'est une façon en fait d'échapper à la vie familiale ». Et la maltraitance, elle se manifeste de différentes manières. Par exemple, des parents qui sont tellement épuisés qu'ils dorment en présence de leurs enfants et qui donc ne les surveillent plus, même quand les enfants parfois sont en très bas âge. Et ça, je pense que ça touche toutes les couches de la population.
Isabelle Roskam, vous êtes notre invitée cet après-midi dans ce dossier consacré au burn-out parental, dans la tête au carré, avec beaucoup de messages pour vous. Je vous les transmets. On poursuit la discussion dans un instant. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque, juste après The Verve et Bitter Sweet Symphony. Bon après-midi. Trying to make ends meet, you're et The Verve. À l'instant, vous êtes bien dans la tête au carré sur France Inter pour parler du burn-out parental avec mon invitée Isabelle Roskam et ce livre publié avec votre consoeur. Vous pouvez me redonner son nom, s'il
alors,
vous
plaît. Alors, c'est Moira Mikola-Jack.
Voilà, c'est plus facile à dire quand on la connaît bien. Et c'est Chaudil Jacob pour cet ouvrage. Alors, beaucoup de témoignages et de questions de parents qui nous parlent des ados et le burn-out des parents d'ados, dit Nathalie et Corinne. Je suis dans le cas d'un burn-out parental avec un ado de 18 ans. Il est important de dire que ça n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive avec des enfants en bas âge.
Alors exactement, donc les recherches elles montrent que ça n'a rien à voir avec l'âge de l'enfant. Il n'y a pas plus de gens en burn-out quand on a des jeunes enfants. Il n'y a pas plus de gens en burn-out avec des familles nombreuses qu'avec un seul enfant. Parce qu'en fait, le stress que peut apporter l'enfant, ça peut bien sûr être lié à son immaturité quand il est petit, mais ça peut être lié aussi à son comportement quand il est adolescent. Et on a aussi dans nos bases de données des personnes en burn-out qui ont en fait des adultes qui vivent toujours à la maison, ces phénomènes Tanguy, où les gens en fait sont en burn-out et stressés d'avoir des grands enfants qui traînent entre guillemets dans leurs pattes parce qu'ils peuvent pas passer à autre chose à un stade de la vie où on a peut-être envie d'avoir plus de temps pour soi, de pas devoir se préoccuper de quelqu'un qui va rentrer, etc.
Sauf que là, est-ce que dans le cadre justement d'adolescents ou de jeunes adultes, on peut pas dire que les choses sont quand même plus simples à régler que lorsqu'on est face à des petits qui forcément sont là dans la maison et dont on peut pas se séparer?
Alors moi je crois que c'est pas simple à régler parce que si on a bien compris que c'est un phénomène de stress, un adolescent qui dit qu'il rentre à 17h et puis qu'il se ramène 3h après, il a généré 3h de stress intense chez les parents qui l'attendent et qui n'ont aucune idée d'où il est parce qu'il a peut-être coupé son GSM. Et donc l'adolescent aussi qui génère des problèmes scolaires et où les parents ont des préoccupations sans cesse sur son avenir, sur peut-être qu'il va se faire éjecter de l'école, enfin des choses comme ça, ça génère autant de stress qu'un enfant qui s'éveille la nuit. Donc la quantité de stress générée par les enfants à différents âges de la vie, elle est tout à fait comparable.
On va écouter l'extrait d'un film qui s'appelle Un heureux événement. Vous l'avez vu d'ailleurs.
Tout à fait.
Vous nous racontez le pitch en deux mots.
Voilà, donc c'est un couple, un jeune couple amoureux qui ils ont très envie d'avoir un enfant ensemble. Et puis une fois qu'elle est enceinte, alors ils sont très contents, sauf qu'ils vont reconnaître en fait tout le côté sombre un peu de la grossesse, tout ce que ça implique dans les changements corporels, tout ce que ça a de dégueu, tout le côté pas sympa en fait de ce moment de la grossesse et de l'accouchement.
Et bien voici un extrait de ce film.
C'est quoi cette blague là?
C'est pas une blague, c'est Darty pour le frigo. J'ai appelé 25 fois, c'est le seul rendez-vous que j'ai pu décrocher.
Mais Darty, un dimanche matin, mais comment t'as pu faire ça? Je me préviens parce que je trouve ça dégueulasse de faire lever un dimanche matin à 8h alors j'ai que le week-end pour me reposer, c'est tout. Et elle, c'est plus possible ça? Il fait pour deux ce lit, putain, pas pour trois. Ça devait être exceptionnel, non? Ça fait des semaines que ça dure. Je suis fatigué, moi, tu comprends? Je suis rincé, j'ai besoin de sommeil, ok? Je pense que ma force est née.
Je craque, Nico. J'en peux plus. Je suis complètement dépassée, là.
Les deux parents sont dépassés, effectivement, dans cet extrait, face à la réalité de l'enfant arrivé à la maison.
Tout à fait. Alors ça arrive d'être à deux en burn-out, bien sûr. Parce que je pense que pour le conjoint, voir son compagnon, sa compagne dépérir sous le coup du stress, ça nécessite aussi beaucoup de ressources. Et on peut soi-même y tomber, ou certains conjoints, des fois, alors du coup, fouillent un peu le milieu familial et s'investissent, par exemple, énormément dans leur travail pour être un peu hors de ce contexte de stress.
C'est plus compliqué pour en sortir, justement, lorsque les deux parents sont dans ce cas de figure?
Ah oui, parce qu'une des pistes pour en sortir, c'est certainement le support qu'on peut obtenir de la personne qui est la plus proche et la plus concernée par la parentalité comme soi. Et donc, si on ne peut pas compter sur un conjoint, par exemple, dans les familles monoparentales, mais aussi dans les familles où on a un conjoint qui ne souhaite pas apporter son support, ou où il y a des conflits par exemple. Alors ça complique beaucoup la tâche, oui.
Serge nous écrit, père au foyer de 3 enfants pendant 7 années à la suite de notre divorce. J'ai vécu un moment d'épuisement à son paroxysme lorsque j'ai eu l'impression d'être en défaut par rapport aux préjugés qui existent et qui font croire que les enfants ont surtout besoin de leur mère les premières années. Les enfants ont-ils donc plus besoin d'un parent qu'un autre avant leur adolescence? Que répond la psychologue?
Alors je dirais non, et sa question est intéressante, parce que tout à l'heure on parlait des pressions sociales et vous m'avez demandé s'il y avait autant de mères que de pères, et je vous ai dit que c'était la même chose.
Oui.
Et je pense que les pressions sociales vis-à-vis des pères sont aussi très importantes, parce qu'on leur demande aujourd'hui de s'investir dans la parentalité, mais ils doivent être extrêmement bons, d'autant plus s'ils élèvent leurs enfants tout seuls au moins la moitié du temps, parce qu'on les croit moins capables en fait d'apporter ce qu'une mère est censée apporter, c'est-à-dire de l'affection, etc. Parce que ça colle pas tellement au rôle de genre, comme on dit, c'est-à-dire à la qualité de l'homme qui est pas investi comme ça d'empathie, d'émotion, etc. Donc je comprends très bien ce regard social qui a pas dû être facile.
Justement, Solène nous dit, enfant de 6 et 3 ans, y a-t-il plus de burn-out parental chez les familles monoparentales? Mon ex-conjoint ne garde nos enfants que 4 jours par mois, j'assume la plupart des moments désagréables, trop peu de moments pour moi sans pouvoir me relâcher sur les responsabilités.
Alors la monoparentalité, c'est comme le reste, c'est un facteur de risque. Donc vous n'êtes pas en burn-out parce que vous êtes famille monoparentale, mais c'est sûr que ça pèse du côté de vos risques et ça vous enlève des ressources. Donc ça vous prédispose, c'est ça, c'est un risque d'y tomber plus facilement, mais c'est pas parce que vous êtes famille monoparentale que le burn-out vous guette, mais c'est sûr que c'est un facteur de risque.
Anne-Laure qui nous écrit, je me reconnais complètement dans votre témoignage depuis la naissance de mon enfant, envie de suicide, d'isolement, j'ai déjà pensé à partir seule en laissant tout derrière moi, je suis soulagée quand je suis en déplacement au bureau, même si c'est très fatigant. C'est très culpabilisant, je me sens seule, alors que mon fils est adorable, je le rejette. Comment se faire aider ?
Alors, je voudrais d'abord juste revenir sur un truc très important qu'il dit, c'est que les gens qui sont en burn-out, ils aiment leurs enfants. Ça, c'est très très important.
C'est Anne-Laure qui nous écrit, c'est une femme.
Donc les gens qui sont en burn-out, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants ou qu'ils trouvent que leurs enfants sont pas de bons enfants. Et ça, c'est une distinction très importante à faire. Et en effet, c'est hyper culpabilisant parce que la société ne vous permet pas, en fait, de dire des choses comme ça. Et donc, je trouve que le fait d'amener ça sur les ondes des radios, d'amener ça sur les télés, de pouvoir en parler, d'écrire des bouquins vulgarisés, c'est très important pour que les gens sachent que c'est un état qu'on peut ressentir et que ce qui est important, c'est de communiquer autour de cet état et de pouvoir se faire aider, de ne pas rester avec ça, quoi.
Alors, cette dame qui est en détresse, visiblement, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller là, tout de suite, dans un cas d'urgence, quasiment ?
Oui, alors je dirais tant qu'on n'est pas trop loin, on peut s'aider soi-même. Donc je pense que lire par exemple un livre qui décrit comment est-ce qu'on y tombe et comment on peut éviter, ça peut donner des clés. Parce qu'on peut soi-même faire un peu cet examen de balance. Vous savez, tantôt j'ai parlé, c'est trop de risques pas compensés par assez de ressources. Et donc on peut soi-même se demander, mais finalement qu'est-ce qu'il y a dans mes plateaux de ma balance et qu'est-ce que je pourrais larguer ou quelles ressources je pourrais rajouter pour m'alléger un peu la tâche.
Enfin là, il y a quand même des envies de suicide
c'est
dans
quand
le
on est trop loin, quand on est trop loin, alors on peut plus faire ce travail soi-même, il faut se faire aider. Et quand on est trop loin, bien sûr, il n'y a qu'une consultation chez un psy qui va vous aider en fait à faire ce travail qui est valable. Et je dirais au milieu des deux, alors nous on a développé une appli qui permet de soutenir au quotidien le parent en envoyant jour par jour en fait, un petit message de soutien et un petit exercice à faire qui permet de remonter un peu la pente.
Oui, mais ce n'est pas suffisant évidemment.
Pour quelqu'un qui est franchement en burn-out, non. Quand on est à risque d'y tomber, ça peut vraiment aider.
Et puis bien sûr, prévenir la famille, les amis, ne pas avoir peur aussi de dire la souffrance, c'est ce que
tout
vous
à
expliquez
tout à fait. Parfois je pense que les gens ils ont une illusion de transparence, ils pensent que parce qu'ils ne sont pas bien, les autres ont franchement compris qu'ils ont besoin d'aide. Je pense qu'il faut pouvoir mettre des mots dessus et solliciter les ressources qui sont autour de soi.
Sabine demande, comment faisaient les générations précédentes sans machine à laver, Magimix, des supermarchés qui nous livrent tout, de nombreux enfants et pas de médecins.
Oui, mais parce que les générations passées n'avaient pas cette pression, je pense, que les générations passées, elles exerçaient leur parentalité avec du bon sens, mais sans se demander si elles collaient à toutes les injonctions sociétales. Ça, je pense que c'est une première chose, avec peut-être moins d'envie de perfection aussi, et plus de temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tout est minuté, tout est compliqué.
Patrice demande, y a-t-il plus de parents de jumeaux triplés en burn-out ? Alors vous parlez en toute connaissance de cause.
En toute connaissance de
parmi
cause.
Parmi vos 5 enfants, vous avez des jumeaux.
Voilà, c'est ça. Alors je pense de nouveau, les naissances multiples, ça peut être un facteur de risque, bien sûr, mais au même titre que la monoparentalité et d'autres choses, et que ce n'est pas parce qu'on a des jumeaux qu'on est forcément en burn-out. Mais ça peut être un facteur de risque, bien sûr, parce que ça amène un surcroît de stress évident. Surtout que souvent, il y a quand même un problème de prématurité dans beaucoup de cas. Et donc,
Allez, deux questions très vite. Anthony, est-ce que le fait d'étendre le congé paternel pourrait permettre de soulager davantage la maman et donc indirectement d'éviter les burn-out ?
Alors pourquoi pas ? Je pense que chaque famille, en fonction de ce qui amène ce stress, doit trouver les solutions. Et parfois, oui, peut-être qu'alors du coup, avoir son conjoint qui est aussi à domicile et qui donne un bon coup de main au début, ça peut être sans doute une solution, mais peut-être pas pour toutes les familles en fait. Ouais.
Et puis un dernier témoignage, Jeanne qui nous dit « J'ai vécu ça sans le savoir, dans ce mal-être et cette ignorance, j'ai fini par quitter mon mari en lui laissant les enfants, c'est la plus grosse erreur de ma vie. »
Ah oui, voilà, donc c'est très important d'en parler du coup et de pouvoir communiquer là autour pour plus que ce genre de choses arrive.
Isabelle Roskam, le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir, c'est donc ce livre qui vient de paraître chez Odile Jacob. Merci beaucoup à vous d'être venu nous en parler.
Avec plaisir.
Au revoir.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Et comme tous les mercredis soirs, vous allez retrouver à 20h45 la science en grand format France 5 en partenariat avec La Tête au Carré. Ce soir, vous allez pouvoir découvrir les derniers trésors de Rome. Bonjour Amandine Picot.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes conseillère des programmes à l'unité documentaire de France 5, Les Trésors de Rome, donc coproduction avec la BBC. Et le docteur Sarah Parcak qui mène l'enquête, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc l'Empire romain a prospéré pendant 5 siècles, donc il était tellement vaste qu'il englobait 40 pays actuels autour de la Méditerranée. Donc il est évident qu'il y a de nombreux trésors à découvrir et Sarah Parcak a mis au point un outil de télédétection. Grâce aux images satellites, elle va pouvoir retrouver des vestiges de l'Empire romain que l'on croyait disparus.
Extrait justement de ce documentaire sur les traces des vestiges de l'Empire romain.
J'ai analysé des images prises à une autre période de l'année. Je les ai traitées avec des algorithmes différents. Et voilà le résultat.
Bon sang. Voilà qui est très intéressant. On dirait un amphithéâtre. Ça se voit à sa forme ovale et au fait que les côtés sont un peu écrasés. Ça ressemble à un amphithéâtre, ça ne fait aucun doute. Il fait quelle taille ?
Environ 43 mètres sur 40.
D'accord, 43 sur 40. Le plus approchant du point de vue de la taille serait le grand Ludus Magnus de Rome, le terrain d'entraînement du Colisée.
Voilà, Amandine Picot, donc on voit que ces nouvelles technologies par satellite permettent aujourd'hui de scanner ces vestiges de l'Empire romain depuis l'espace.
Oui, tout à fait. Et leur but, ça va être de retrouver les traces du phare de Portus. Mmh. C'était l'un des symboles suprêmes de Rome, car on le retrouvait sur les pièces de monnaie de l'époque. Voilà, c'était le carrefour des réseaux commerciaux qui alimentait Rome. Et donc Sarah Parcak va voyager à travers 4 sites majestueux. Elle va aller donc du coup en Italie, en Roumanie. Elle va aussi aller à Petra, qui était considéré comme le Las Vegas de l'Empire romain, et elle va ensuite aller en Tunisie.
Bon, bah écoutez, on va découvrir ça ce soir avec certainement des révélations archéologiques hein, grâce à ces nouvelles techniques. Ça s'appelle « Les derniers trésors de Rome » et c'est sur France 5 ce soir à 20h45 dans le cadre de votre rendez-vous Science Grand Format. Merci beaucoup Amandine Picot.
Merci à vous.
Et bonne journée. À bientôt.
Au revoir.
Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu.
Affaires sensibles. J'ai envoyé le jingle mais il n'y en a pas pour vous. On se parle en direct.
Tant mieux.
Quel sera le thème dans un instant ?
Le dossier Alstom. Alors ça peut paraître aride, compliqué, mais c'est un scénario, vous verrez, c'est une histoire. Et nous en parlerons aussi avec notre invité Jean-Michel Quatrepoint, qui a enquêté, qui en écrit un livre intitulé Alstom, scandale d'État.